Et bienvenue dans Intermédiaire en escapade, ici et maintenant face à l'agitation du monde. En direct dans les studios d'escapade, jusqu'ici ça va. Et oui, traiter de l'info locale, ce n'est pas rester indifférent à l'agitation du monde. De Toulouse à Marseille, la rédaction d'Intermidi couvre des territoires vivants, traversés par des histoires, des parcours, des expériences. Notre média indépendant part à la rencontre des personnes qui font vivre ce territoire et aussi celles qui les traversent. Alors au sommaire, dans notre rubrique Média, retour sur la séquence autour de la mort de Quentin Deranck. Emballement, mise en cause de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, percée des chroniqueurs de droite radicale dans les grands médias, avec une question: que dit cet épisode de l'état du journalisme politique en France ? En parlant du local, Altermini glane des blessures et des rêves et ouvre le lieu d'une rencontre. Dans cette émission, on part en voyage de Nottingham à Toulouse avec la performance de Sébastien Barrier qui rend un hommage déjanté au groupe Stillsford Mods. De Genève à Montpellier avec la metteuse en scène Séverine Chavrier qui était l'invitée du Théâtre des 13 Vents le mois dernier. Et de Marseille à Ganges avec Laura Vasquez, dont les mots aiguilles ont piqué le spectateur du théâtre Albarède pour son second cycle dédié à la poésie le 13 février dernier. Alors, on revient sur cette séquence révélatrice autour de la mort de Quentin Deranck, où le cadrage médiatique est devenu une sentence. Une semaine, il n'aura fallu qu'une semaine pour que la mort de Quentin Deranck devienne un séisme politico-médiatique. Mais au-delà du drame, c'est la mécanique médiatique qui interroge. Très vite, le cadrage s'impose. Derrière les violences de rue, il y aurait un responsable politique, la France insoumise, et en filigrane, Jean-Luc Mélenchon. La question de la responsabilité morale du mouvement devient centrale, omniprésente, répétée d'antenne en antenne. Des matinales de France Inter au plateau de BFM TV et CNews, le récit converge. La violence de LFI devient une évidence médiatique, rarement discutée, encore moins contextualisée. On a eu d'ailleurs à ce sujet un contact avec une journaliste de France 2 témoignant du veto de la rédaction concernant la diffusion d'une vidéo qui aurait permis de mieux contextualiser un petit peu cette affaire. En tout cas, cette séquence révèle aussi autre chose, la percée durable des chroniqueurs issus d'un droite radical ou de sa périphérie dans les médias de masse. Leur grille de lecture ne reste plus cantonnée à certains espaces identifiés. Elle infuse désormais l'ensemble du débat public. Ce qui relevait hier d'un positionnement éditorial devient aujourd'hui un cadrage partagé. Dans ce climat, Jean-Luc Mélenchon a tenu une conférence de presse exclusivement destinée aux médias indépendants. Le geste peut se comprendre au regard de la défiance affichée, mais il est difficilement justifiable au regard du principe même de la liberté d'informer. Sélectionner ses interlocuteurs, c'est aussi fragiliser l'idée d'un espace médiatique commun. Ce justement qu'Altermidi avait dénoncé lors de la visite d'Emmanuel Macron à Ganges en 2023, peut-être que vous vous en souvenez. À l'époque, on se souvient en tout cas d'avoir vu sur les écrans de télé le président en chemise blanche aux manches retroussées dans la cour du collège Louise Michel de Ganges tout sourire, de belles images scénarisées, alors que sur le terrain, ni les héraultais qui avaient fait le déplacement, ni la presse régionale n'avaient pu voir Emmanuel Macron officiellement venu à la rencontre des Français et Françaises. Et c'est peut-être là le vrai signal d'alarme. Aujourd'hui, un responsable politique victime d'une cabale médiatique contourne les grands médias et ces mêmes médias donnent le sentiment d'avoir déjà tranché le procès avant l'enquête. Ce n'est plus seulement une polémique de plus, c'est le symptôme d'une crise profonde du journalisme politique français, une crise où l'éditorial prend le pas sur l'enquête, où le cadrage précède des faits et où le débat public se transforme en chambre d'écho. À force de vouloir désigner des coupables, le risque est simple: ne plus savoir informer.
By the name of K. the cane. Can you sing that funky joke for me that you said before? Like this.
Pass the microphone to the baritone. Lyrical acetone from Jersey to Arizona. Feel me like a touch tone. Sweetest thing you ever known. You better go call Tyrone and use the payphone. The telephone, send an end to the best of them. The rest of them ain't nothing but antonyms. Unruly citizen to the bitter end. That's the kind of shit I'm in. Hustling for dividends. Me and Bisbee, Fonzie, Pinky, Cuscadero. Sharon, Bobby, De Niro, Chiba, and the Pharaoh. Cause your prototype ain't nothing but total hype. We control the mic, so get the photo right. Never intended, my style to be reinvented. Too deep in it, not to win it. Give me a minute, and I'ma let the whole world know my name. Candy Cane, Bismarck, Bismarck, you do the same.
Honey, Lola, dance.
Of the stutter, bringing you the butter, mouth not in the gutter for your father or your mother. Got my own talk, pull my own walk. Live in Maryland, but from Jersey in New York. I like karate movies, comedies are groovy. Elton John and Marvin Gaye always seem to sue me. Drive a 600, but I don't need to brag. I buy my money, honey, because that's not my bag. I usually act crazy, totally out my mind. I had to cool out, this beat's one of a kind. This beat's so funky, don't you all agree? Candy teaming up like Sharon Sunny. I got you, babe. When they come to singing funky rhymes, a jingle bell, a Rockefeller hit a ringy chime. Futuristic, wibbleistic, unstoppable thrust. Party rocker, show shocker, a serious must.
Ronnie's on the dance floor.
Popular than Shakespeare, more exciting than a Roman candle, more controversy than a Marv Albert scandal.
Laid back like a wallflower, sweet and sour. Even in my finest hour, tower house of power, I sit back and build like ants on a hill. It's a done deal, guaranteed built and sealed. It takes a mic of steel to display these skills. Never overkill, I just do it for the thrill. Yo, this joint is hot, knocking in your spine. And yo, biz, get a peep of what you got.
Sexy chocolate, candy cane. Her rhyme's so deaf, I can't complain. As for me, it's a diabolical B-I-Z. Catch me DJing her on my next LP.
Honey's on the dance floor. Playing thugs like the four. Is it because biz and candy cane got the rhyme below? Honey's on the dance floor. Playing thugs like the four. Is it because biz and candy cane got the rhyme below?
Radio Escapade, Bézanne, Candy. Est-ce que vous connaissez le groupe de Nottingham, les Sleaford Mods? Ce duo post-punk électro contemporain composé de James Williamson au chant et d'Andrew Fim à la musique et aussi entre punk, hip-hop et jazz dans une libre approche. Typiquement britannique, il pratique un art brut et débridé, mais aussi super précis et raffiné. Jason Williamson est un poète, mais il ne se qualifierait probablement jamais lui comme cela. Du 11 au 13 mars, le théâtre Sorano, en partenariat avec le théâtre Garonne à Toulouse, le comédien trublion Sébastien Barnier, célèbre pour ses conférences digressives et désopilantes, invite à découvrir sur scène les Sleaford Mods, tout simplement parce qu'il a lui-même, et il est devenu fan, et que la découverte de ce groupe a transformé sa vie, dit-il. Les premiers effets de la rencontre avec ce groupe de Nottingham ont failli le convaincre de tout arrêter, tant la secousse fut brutale et la remise en question immédiate. Mais ces années de relations intimes et rêvées ont fini par l'aider à trouver son propre chemin, Ainsi né Dear Jason, Dear Andrew, c'est le spectacle qu'il va donner à Toulouse, où Sébastien Barrier livre à ses héros un hommage reconnaissant, dans une performance jubilatoire peuplée d'images, de chants et de mots. Avec Dear Jason and Dear Andrew, Sébastien Barnier affirme son côté punk, hommage au duo anglais atypique et enragé, Sleaford Mods, qu'on écoute tout de suite en live.
How you doing?
Dear Jason and Dear Andrew, un spectacle de Sébastien Barrier à voir au théâtre Sorano à Toulouse du 11 au 13 mars. Le CDN de Montpellier, membre du club partenaire Altermidi, recevait le mois dernier la metteuse en scène Séverine Chavrier, qui déploie une œuvre ample et exigeante. Au Domaine d'eau, on a pu voir Absalon Absalon, créé en 2024 pour l'ouverture du Festival d'Avignon. Une pièce vertigineuse adaptée du roman éponyme de Faulkner qui nous entraîne dans une traversée de l'histoire américaine, vue du Sud, pendant et après la guerre de Sécession. 5 heures d'une expérience théâtrale immersive et inédite dont on ressort non épuisé mais revigoré. La force d'invention et la liberté créative qui irrigue Absalon Absalon rappelle avec éclat que le théâtre peut encore viser le grand large et nous y entraîner avec lui. On écoute Séverine Chavrier évoquer son rapport passionnel à l'œuvre de Faulkner.
J'avais travaillé sur Les Palmiers Sauvages en 2014, je crois, qui est un roman un peu à part dans l'œuvre de Faulkner, puisque c'est une sorte de romance, comme ça, qui sort complètement de son timbre-poste, comme on dit, de son petit cran-tronqué.
Ouais.
Et d'une grande histoire d'amour comme ça jusqu'à la destruction. Et je m'étais dit quand même, même si j'avais beaucoup essayé de ramener aussi cette nature, je m'étais dit j'ai quand même pas touché le vrai sujet faulknerien, notamment la question des noirs et des blancs, comment ce monde de blancs s'auto-détruit et observé par les noirs dans ce c'est ce que dit Edouard Glissant, quoi, c'est-à-dire l'impossible légitimité en fait de l'Amérique à cause de ces deux viols que sont en fait
le massacre indien et
la traite des indiens et la traite des noirs, quoi.
Ouais.
Donc et ça c'est vraiment dans Absalom, c'est vraiment fort en fait. Et j'ai mis 7 ans à faire ce projet. J'arrivais même pas en fait à faire une distribution, si vous voulez. Enfin, la distribution, je l'ai faite aussi en travaillant au plateau, ce qui est assez rare. Normalement, quand même, on sait. Donc, j'ai fait beaucoup d'essais. J'avais la chance d'être à Orléans, donc j'ai fait beaucoup d'essais. Et puis, à un moment, j'ai compris aussi que c'était une pièce sur la jeunesse brisée, quand même, quelque part.
Ouais.
Et ça m'a aussi beaucoup touchée.
C'est époustouflant, hein, ce qui se passe sur le plateau, vraiment.
La différence d'échelle, et puis ce... J'aime beaucoup la petite maison, la grande maison, enfin de la maison de poupée. Et puis ma scénographe, en fait, elle a travaillé presque sur une histoire aussi, une histoire de l'Amérique à travers les objets. Plastique, petit à petit, commence à gagner du terrain, quoi. On voit toutes ces armes en plastique. Et puis cet atelier clandestin, alors là, il est derrière la scène. Mais parfois, dans certains théâtres, on arrive à le faire en dessous, vous voyez. Et donc, en fait, on se dit, donc, pendant le temps de la représentation, il y a encore des gens qui travaillent en dessous, comme on continue l'Occident, l'Amérique, enfin, continue à exploiter de toute façon dans ces sous-temps. Voilà, donc c'était aussi le fracas des temps, quoi, qu'on a beaucoup travaillé, comme vous le voyez. Quoi. Plus les âges, on ne sait plus, à la fin, il y a une confusion. Et puis le fait que dramaturgiquement, celui qui joue Quentin joue aussi le suspense, donc c'est-à-dire la peur d'hériter de tout ça, en fait.
Sur le temps, là, dans cette pièce où, en fait, la guerre de sécession, elle marque un pointé quelque part, et l'action, elle se situe aussi bien avant qu'après la défaite des sudistes. Voilà. Comment vous avez abordé cette notion du temps ?
C'est ça que j'aime chez Faulkner, c'est d'abord la question des êtres. Qui ont accès à une sorte de monologue intérieur, enfin quand il dit « je vais déchirer le voile », c'est ça, quoi, une vérité qu'on essaie d'attendre, comme cette vieille femme aussi qui essaie qui ressasse jusqu'à... Donc il donne cet accès à n'importe qui, en fait. C'est pas une question d'intellect, c'est une question d'obstination, quoi, d'obsession, en fait.
Ouais.
Les personnages qui préfèrent l'obsession que... Enfin, qui tiennent grâce à ça, quoi.
C'est ce qui vous attire chez Faulkner, c'est cette complexité des personnages, quelque part le goût des traumatismes.
Cette vérité humaine, quoi. Ouais. C'est cette vérité humaine, même sur les femmes, on dit qu'il est très misogyne. Moi, je trouve qu'il a des choses magnifiques sur les femmes. En fait, ce rôle de la vieille tante, c'est assez magnifique aussi. Ces femmes complètement embastillonnées dans leur chair, quoi.
Ouais.
Mais sur le... Ouais, c'est le fracas des temps qui m'intéresse, c'est-à-dire le temps réel de la représentation, le temps du récit, de l'action, le temps des jeunes de l'université qui essayent de reconstituer cette histoire, donc les doubles aussi.
Ouais.
Ça, je trouvais assez magnifique comme défi scénique aussi. Donc, c'est une... Comment cette espèce de billboard en fait permet de raconter toute cette histoire, quoi.
Ouais.
Et ce vaste espace de terre est quasiment pas occupé, en fait. En fait, ils sont tous pris dans des petits espaces filmés, mais en fait, qui a le droit de fouler ce grand espace, quoi. Et au départ, il n'y a que ce saut de peine. Voilà, donc il y a aussi des enjeux dramaturgiques et puis la question de l'image. C'est-à-dire cette espèce d'image à 360 degrés, c'est-à-dire tout est image, quoi.
Ouais.
Donc on est broyé en fait dans un mainstream d'images. On ne sait même plus où sont les caméras, on ne sait même plus Ça, je trouve que ça racontait aussi quelque chose, quoi. Je voulais absolument qu'on ne voit pas souvent la cadreuse. Et puis, comment dire, le morcellement des corps aussi dans le filmage, qui est important.
Ouais. Vous offrez un corps à Stephen aussi, alors que Faulkner ne le laisse pas apparaître. En fait, dans le roman, c'est les intermédiaires qui sont les narrateurs.
On aurait pu ne pas le représenter, comme Charles Bon aussi. Ouais, c'est des choix qui se sont faits. On a eu la chance de pouvoir chercher beaucoup. Et puis moi, vous savez, je travaille vraiment. Je tourne autour. Je travaille avec ce que le texte a déposé chez les interprètes inconsciemment. Je dis pas aujourd'hui on va faire telle scène, jamais. Je pars très très loin grâce à la scénographie, grâce au son, et puis j'essaie de voir ce que ça a déposé chez eux et qu'est-ce qu'ils peuvent écrire de ça, quoi.
Ouais. Ce personnage de
c'est ce que vous appelez ma liberté, je pense.
Ouais tout à fait. Et la multiplicité des points d'entrée. Pour revenir sur ce personnage-là de Stephen, il cherche quelque part à obtenir sa revanche sociale. Il est prêt à tout pour satisfaire ses désirs. C'est un personnage peu sympathique, a priori, hein, parce qu'il écrase tout ce qui s'oppose à son destin. Mais à un moment dans le spectacle, il est dit à propos des gens du Sud, justement, que moins ils réfléchissent et plus ils sont beaux. quel regard vous portez sur ces personnages-là ?
C'est Faulkner qui le dit. Ouais. Moi, j'ai beaucoup. Si vous voulez, c'est comme un exercice faulknerien. C'est-à-dire, en fait, Faulkner travaille aussi beaucoup avec la langue vernaculaire. Enfin, par exemple, on voit bien dans Tandis que j'agonise, quoi. Qu'est-ce que pourraient penser ces personnages ? Et du coup, j'ai demandé aux acteurs de travailler aussi sur leur propre figure de père.
Ouais.
Donc il y a des choses qui sont vraies dans le spectacle, qui sont dites.
Ouais.
Par exemple, quand la petite Jimmy raconte que son père s'est pendu, c'est vrai. Et donc cette peine, Laurent Papot qui joue cette peine, il s'est beaucoup inspiré de son père. Donc moi je sais qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de son père, par exemple.
Ouais.
Donc c'est aussi un exercice, quoi. Je sais pas si c'est cathartique, mais en tout cas c'était... moi j'appelais ça les aveux, quoi. Comment chacun aussi, ce que raconte Jérôme sur sa famille, par exemple, de La Rochelle et tout ça, c'est vrai. C'est comme si chaque personne dans la distribution avait aussi quelque chose à faire avec cette histoire, puisque cette histoire est notre histoire. Voilà. Et chercher le point de contact, quoi.
Ouais. Ouais, sur ce passage, justement, où il parle de la traite négrière de La Rochelle. C'est aussi une façon, quelque part, de dire qu'on ne peut pas dissocier le racisme et l'exploitation capitaliste américaine de ce qui se passe aussi en France.
Voilà, c'est une histoire qui passe par la France. Moi, j'avais une dramaturge un peu qui m'a aidée sur ces questions un peu, Michel, je me vois d'ailleurs, antillaise, sur les questions justement de représentation, etc. Et elle me disait, c'est une histoire qui passe par la France. Donc, c'est assez fort aussi, parce que comment il ne s'agissait pas de parler de l'Amérique pour dire eux ils sont comme ça et nous on n'est pas impliqués là-dedans. Enfin, vous voyez.
C'est une tendance qu'on a quand même.
Ah bon ? Ah bah, de toute façon, chaque pays, vous savez, moi je vis des choses incroyables.
Ouais, vous pouvez dire un truc pas très drôle en ce moment, mais bon, c'est pas le sujet de notre
entretien. Je vais bientôt monter Shakespeare, moi. Faut couper des têtes maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que la vraie question d'Absalom, c'est de quoi on hérite et comment se crée-t-il essayer d'échapper à cette histoire, en fait.
Au cœur de l'œuvre, il y a le thème de l'influence du passé sur l'avenir, quelque part.
Récit oral, quoi. Qu'est-ce qu'on se rappelle ? C'est pour ça que j'ai aimé aussi la voiture comme lieu de confidence, comme habitacle, comme suicide. Pour moi, c'était aussi évidemment le road américain, puis du cheval, quoi. Enfin, la suite de la conquête, quoi. Sa voiture, quoi.
Ouais, c'est comme vous disiez tout à l'heure, s'il y a une grande, c'est comme une grande symphonie avec des endroits qui sont presque des huis clos et qui composent note par note une œuvre majestueuse.
Ouais, la question de la confidence, enfin disons de la parole. Ouais, c'est et puis la question de la parole au théâtre, quoi. Qu'est-ce que moi, je suis pas quelqu'un du poème dit, quoi. Vous voyez.
Ouais.
Donc en fait. J'aime que la parole vernaculaire puisse faire poésie, en fait.
Séverine Chavrier, qui dirige la Comédie de Genève depuis 2023, elle est aujourd'hui au cœur d'une crise. Quand elle parle dans notre entretien qu'elle veut monter Shakespeare, c'est pas tout à fait innocent. Et cette crise, c'est plusieurs acteurs du secteur, dont le syndicat suisse roman du spectacle, qui réclament son éviction. Lors de l'entretien que nous avons eu avec elle, nous avons choisi de nous concentrer exclusivement sur la dimension artistique de son adaptation de l'œuvre de William Faulkner, mais nous tenons néanmoins à lui exprimer tout notre soutien dans ce conflit aux airs kafkaïens.
Generations of good people and cycles of poverty. It bothers me, so I ask myself, I say, are you doing as much as you can for the struggle?
No.
Am I doing as much as I can for the struggle?
No.
Then why do I cry when my people are in trouble?
No.
My ancestors slapped me in the face and said,
go!
Harry Tubman told me to get on up. Marcus Garvey said to me, bro, you get on up. My brother Malcolm X need our neighbor. It ain't like we never seen blood before. Come on, let's talk revolution now. Malcolm has one shot him.
Right.
I see tears cause now it seems that we've forgot him.
Yeah.
I see years of people searching for solutions,
right.
Restitutions, excuses. No more, no more confusion. Come on, let's talk right talk up, but don't talk up all night.
Uh-huh.
There's gotta be action if you want satisfaction. If not for yourself, for the young ones. The UN, the US, we can't allow ya to tell us that getting together was not as important as getting Bosnia.
Oh.
I ain't with it,
uh-huh.
Just forget it.
No.
We can't even debate if you don't understand our situation. You don't want us to go get a gun now, do you? You don't like to see people running around now. Yet still you want to live like 90210 while we scream out, yo!
Freedom!
My grandmothers ago, we erased it. You must acquire a taste for something we've never tasted. So people, let us wet our palates. It's either the bullet or the ballot. Come now, revolution now.
Talk about a red.
Hey!
Arrest Development Revolution, vous êtes sur les ondes de Radio Esclapade à 12h31 et il pleut encore, et oui. À Ganges, en partenariat avec la librairie L'Arbre sans fin, lors du second cycle dédié à la poésie vivante, le théâtre Albared a affirmé avec force son engagement pour la création contemporaine. Deux jours dédiés à la poésie vivante avec les poétesses Manon Allat, Héloïse Brésillon et une performance vidéo-lecture d'Élise Blottière et Laura Vasquez, lauréate du prix Goncourt de la poésie 2023, dont l'œuvre explore avec une intensité rare les puissances du langage et du réel. Occasion donnée d'aller frapper à la porte de sa loge avant la performance pour un échange sur le vif. Laura Vasquez, bonjour. Vous êtes dans ce merveilleux paysage gangeois pluvieux.
Oui, c'est ça.
Très pittoresque. L'entretien qu'on va faire, c'est un petit peu un échange qui n'est pas vraiment dans les lignes du journalisme et de l'auteur. On va essayer de trouver un moment d'échange, tout simplement. Moi, j'aime votre façon d'exprimer ce qui vous habite. Par exemple, quand vous dites « on a perdu d'avance », on est au service de quelque chose qui ne se comprend pas et qu'on ne peut pas comprendre. On peut penser que vous parlez de la vie ou de la création, ou peut-être des deux.
J'ai pas vraiment un souvenir de ce que je raconte, parce que je fais pas mal d'entretiens, donc parfois je dis des phrases qui me sont rapportées par la suite et dont je me souviens pas très bien. Là, en l'occurrence, je sais pas trop dans quel contexte c'était, mais j'imagine que je parlais d'écriture. Parce qu'en général, c'est ce dont je parle en entretien. Donc, je pense que je parlais du fait de renoncer au moment où on se met à écrire, à commencer un livre ou un poème d'ailleurs, de renoncer à tout. Donc, de renoncer à toute forme d'ambition, d'idée de beauté, de réussite, de perfection. Pour laisser de la place à un grand vide. Et donc, à partir de là, peut-être que quelque chose peut arriver, ou peut-être pas d'ailleurs, hein, ça dépend des fois. Mais sans ce mouvement initial de renoncement ou d'abandon, j'ai remarqué qu'on écrit de manière très pourrie, vraiment nulle. Mmh, mmh. Donc, c'est assez vital, important, je crois, dans mon expérience.
Oui, vous disiez justement à propos du renoncement que le renoncement, c'est le début de la poésie.
Et là, j'ai dit ça.
Oui, vous avez dit ça.
Là, j'ai vraiment un sens de la formule très... Enfin, j'affirme des idées. Non, je ne serais pas aussi tranchée hein, sur cette question, parce que là, ça sonne un peu comme un slogan, quoi, comme leitmotiv personnel. Ouais. Je ne pense pas en ces termes. C'est plus, disons, comme des expériences que j'ai traversées et que je tente d'expliquer avec des mots, mais c'est jamais tout à fait juste. Donc c'est jamais tout à fait ça. À chaque fois que je parle de ça, de ce que c'est que d'écrire, je suis soit très à côté, soit au moins un petit peu à côté. Mais je suis jamais précisément à l'endroit où ça a lieu, parce que je sais pas comment ça marche, je sais pas exactement ce qui se passe. Donc, en parler, c'est juste tourner autour d'un pot mystérieux et immense que je ne peux pas du tout décrire précisément.
Il y a, dans ce que vous dites, il y a l'idée que les mots nous trahissent ?
Je ne sais pas, parce que c'est vrai que toutes ces idées autour de l'innommable, de l'indicible, ne me touchent pas forcément. Parce que j'ai l'impression qu'avec les mots, mais plus largement avec le langage, avec les sons, avec notre bouche, nos bruits humains, on peut exprimer beaucoup de choses très, très complexes et très profondes. Et même, à vrai dire, parfois sans mots, juste avec nos visages, avec les expressions de nos visages ou avec des gestes. On est quand même doués, nous les êtres humains, d'une expressivité qui est extrêmement large et extrêmement précise. Un visage dit beaucoup, un mot, son intonation disent énormément. Donc je ne suis pas très proche de l'idée d'indicible, de non-possibilité de dire. Surtout qu'avec la poésie en particulier, on peut arriver à dire des choses, à faire sentir des choses très très profondes et qui semblent impossibles à expliquer. On ne les explique pas, mais on finit par... elles finissent par peut-être être là d'une autre manière, d'une manière détournée, peut-être parfois par l'absence. Et donc je ne sais pas si les mots nous trahissent. Dans mes romans, souvent les personnages se posent ces questions-là. Et certains arrivent à la conclusion que oui, les mots trahissent terriblement, qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut rien nommer, qu'on ne peut rien dire, que les mots nomment ce qui n'est pas plutôt que ce qui est, parce qu'on ne peut pas nommer ce qui est. Enfin, il y a des tas de raisonnements comme ça de la part de mes personnages. Mais de ma part à moi, dans ma vie quotidienne, il n'y en a pas vraiment. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop.
Je reviens sur l'idée du renoncement, parce que quelque part, enfin, ce que vous avez dit après cette idée de renoncer, c'est ouvrir à la poésie. Moi, je vois l'image de se retrouver en haute mer, quelque part. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que par rapport aux critères, au cloisonnement que peut produire aussi la littérature et son milieu, la poésie, c'est quand même cet espace, non ?
Oui, j'aime bien cette image-là que vous nommez de haute mer, le fait d'être en haute mer, le fait d'être entouré de presque rien, d'avoir rien à quoi s'attacher, de n'avoir plus de point de repère. J'aime beaucoup cette vision-là qui a été aussi beaucoup développée par Jean Genet, dans un livre qui est comme un petit essai bizarre de Jean Genet. Ça s'appelle « Le funambule ». Et il parle de la manière dont un artiste, tout art confondu, se jette. C'est-à-dire accepte complètement la mort, fait même un pacte avec la mort. Il va mourir. On va mourir. On y va complètement. Et donc, dans cette image-là que vous venez d'évoquer de voyage, de traversée, d'exil très lointain en haute mer, je crois qu'il y a un peu de ça, il y a un peu de cette volonté qui n'est pas vraiment une volonté, mais c'est plutôt comme une promesse ou comme une décision très radicale de tout couper, mais vraiment sans aucun compromis possible. Mais c'est un peu flou, hein, la manière dont j'en parle. Hein. Je suis pas sûre moi-même de... Comme je vous disais, c'est toujours très... un peu creux de parler de tout ça. Parce que en réalité, quand on fait de l'art, que ce soit à travers la littérature, à travers n'importe quelle forme, nos œuvres devraient pouvoir tenir seules et sans nous et sans nos discours autour. Donc on est bien forcé d'en faire un peu, de présenter les œuvres, de les défendre, d'avoir un visage, d'avoir un nom, d'avoir un accent et tout ça. Mais en réalité, ce qui compte, c'est d'aller voir l'œuvre ou de lire les livres. C'est tout ce qui compte. Le reste autour, c'est comme de la déco, quoi. C'est...
De la déco,
oui. Oui, c'est ça.
Oui, je repense à Jean Genet, là, le funambule, qui a d'ailleurs été mis magnifiquement chorégraphié par après le Jocage. J'avais vu ce spectacle ça pose la question de l'artiste aussi sur ce fil.
Ouais, complètement. Ouais. C'est vraiment un petit essai sur ce qu'est l'artiste et sur même le statut d'artiste en tant que imposteur, arnaqueur, qui utilise et mais qui accepte de mourir. Qui accepte de mourir, qui donne tout, absolument, mais qui sait comment ça fonctionne, comment ce monde fonctionne. Et je trouve ce petit essai qui fait même pas une centaine de pages brillant, et j'y reviens assez souvent. C'est une petite consolation pour moi, ce livre-là. Je m'en sers souvent.
Artiste arnaqueur, ça m'interpelle un petit peu. Qu'est-ce que vous mettez derrière ? Est-ce que c'est cette nourriture qui peut aller chercher à des endroits qui ne le concernent pas, mais qui va exploiter, par exemple ? Dans la misère sociale, dans...
Non, je pense que ça a plutôt à voir avec l'humanité même, dans tout ce qu'elle a. Donc, dans ses dans ses pires travers, ses pires laideurs, ses petites vilainies qui sont les plus grossières, ces choses-là. Parfois, souvent, l'artiste en est bien conscient. C'est bien, on sait très bien dans quel monde on vit. On sait très bien comment fonctionne ce monde-là. Qui vient nous voir ? Qui va nous lire ? Qui regarde, qui écoute ? Comment ça marche, ce que cherchent les personnes ? Ce qui les dégoûte, ce qui les effraie ? Ce qu'elles ne voudraient pas voir, mais ce qu'elles voudraient sentir ? Et donc il y a une sorte de pacte très implicite vis-à-vis de ceux qui reçoivent l'œuvre et celui qui l'a fait, qui la donne ou qui l'incarne à un moment donné. Et c'est un pacte qui a beaucoup à voir avec le sacrifice, avec quelque chose de très ancien et de très ritualisé, je crois, chez les êtres humains.
Cause in the night you'll feel fright, and at the sight of a 4/5, I guess you just might wanna do a dance or two. Cause he could maybe bust you for self or with a crew. No matter if you or your brother's a star, he could pop you in jet without a getaway car. And some might say that he's a dummy, but he's sticking you and taking all of your money. It's a daily operation. He might be loose in the park or lurking at the train station. Mad brothers know his name, so he thinks he got a little fame from the stick-up game. And while we're blaming society, he's at a party with his man. They got the eye and the gold chain that the next man's wearing. It looks big, but they ain't staring, just thinking of a way and when to get the brother. They'll be long gone before the kid recovers, and back around the way he'll have the chain on his neck, claiming respect just to get a rap. Brothers in a circle had the kid trapped. The one with the hoodie said will hurt you if you don't run out your jewels and pay. Give up the Rolex watch or you won't see another day. See, they were on the attack, and one said, yo, you want to make this to a homicide rap? Make it fast so we can be on our way, kick in the rings and everything, okay? The kid was nervous and flinching, and little shorty with the 3/8, yo, he was inching closer and closer, put the gun to his head. Shorty was down to catch a body instead. Money was scared, so he panicked, took off his link and his rings, and ran frantic. But Shorty said, nah, pull the trigger and step. It was nothing. He did it just to get a rap.
Écoutez Gangstar sur Radio Escapade et on retrouve la poétesse marseillaise Laura Vasquez pour la seconde partie d'un entretien réalisé à l'occasion de son passage au théâtre Albaret d'Agange. Et comme on aime jouer, nous lui avons proposé un petit jeu.
1986, Perpignan, vous êtes sur Terre depuis 40 ans ?
Bah, 39 là, 39, actuellement.
D'accord. Qu'est-ce qui vous étonne ?
Ce qui m'étonne, c'est la répétition des temporalités. Par exemple, là, on est en février. Il y a dans l'air une très légère, pour l'instant très 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 légère, odeur de printemps qui arrive à peine. On le sent, on le voit sur les arbres. Et bon, mais comme vous le dites, j'ai bientôt 40 ans. Eh bien, chaque année, ça m'étonne, la puissance de ces choses-là, qui se répètent. Donc, j'ai vécu ce truc-là, qu'on appelle printemps ou ce qu'on appelle hiver, 40 fois. Eh bien, la sensation est toujours aussi vive, peut-être même plus, parce que ça se superpose, en quelque sorte. Et donc, c'est un truc de la vie qui ne cesse de m'étonner. Et après, il y a beaucoup d'autres choses qui m'étonnent. Par exemple, les visages. Un visage nouveau. Par exemple, vous, je ne vous connaissais pas tout à l'heure. J'ai un nouveau visage dans ma vie de visage. Ça, c'est quand même incroyable. C'est hyper étrange. C'est hyper fou quand on se penche un peu sur la question.
Toute la question est de se pencher sur la question.
Ben oui, mais quand on observe un peu ça, c'est quand même assez vertigineux, ouais, de se dire que les humains ont des visages, qu'on les retient, que ces visages sont expressifs, que ces visages n'appartiennent... Ce visage n'appartient pas vraiment à la personne qui le porte, puisqu'il est... Il est le résultat de deux autres visages, complètement le résultat de visages du père et de la mère. C'est un mélange et ça a donné ça. Et derrière ça, là-dedans, il y a une personne. Enfin, en fait, si on regarde autour de nous, sans arrêt, tout est étonnant. Là, on est dans une pièce, il y a de la lumière. Qu'est-ce que c'est que ça, la lumière? C'est incroyable. Qu'est-ce que la conscience? L'eau. Enfin bon, bref, un peu tout finalement.
Que cache en nous ce que révèle l'ignorance d'un événement tragique?
Alors, je vais répéter votre question pour essayer de la comprendre. Que cache en nous l'ignorance?
Ce que révèle l'ignorance d'un événement tragique?
Alors, lorsqu'on ignore un événement tragique, ça cache en nous... J'essaie de répondre. Je trouve cette question très... On dirait une sorte de koan zen. Alors, qu'est-ce que ça cache en nous? Peut-être que ça cache en nous une terreur. Il y a un livre de Frédéric Boyer qui s'intitule « Quelle terreur en nous ne veut pas finir ?» C'est un petit essai. Il y a une terreur en nous qui ne veut pas finir. Et parfois, on ignore, enfin, on est indifférent, ou on ferme les yeux, ou on ne veut pas voir. Parce que ça réveille absolument, ça touche à notre terreur initiale. Et ça nous rend cruel, stupide, ça nous rend sarcastique. C'est très facile d'être sarcastique. Mm-hmm. Ça nous rend ironique, indifférent, malin, intelligent. L'intelligence, parfois, vient cacher une terreur. Et... Donc c'est comme ça que je répondrai à votre question qui me semble très épaisse, hein, très dense comme question.
Bon, on va faire plus léger. Je vous propose un petit jeu.
Allez.
Si vous voulez bien jouer un peu. Alors, c'est un jeu inventé. Je vous donne deux mots. Et s'ils vibrent, vous me dites ce qui se dessine en filigrane, l'écho de la coïncidence. Si ça ne vibre pas, on passe à un autre couple. Et si vous en avez marre, on s'arrête.
Ok.
Ok. Donc, donnez-moi un chiffre entre 1 et 15.
13.
Par an, des mesures.
Ça me fait penser à certaines scènes que vivent les enfants quand ils sont tout petits. Et que, par hasard, les enfants sont tout petits de taille. Donc, ils arrivent à peu près au genou ou à la cuisse de leurs parents. Et souvent, les enfants courent, jouent dans un groupe d'adultes et s'accrochent à la cuisse de leurs parents. Mmh. Mais parfois, les enfants se trompent de cuisse. Ils s'accrochent à la cuisse de quelqu'un d'autre. Mmh. Et là, ils lèvent la tête et ils voient que c'est pas leurs parents. C'est un inconnu. Et là, c'est une impression qui est démesurée. C'est immense, c'est un grand vertige.
Tout à fait. Mmh. Un autre numéro, toujours entre 1 et 15.
7.
Présent récit,
ça me fait penser à l'improvisation et à quelqu'un qui s'appelait Amadou Mpateba, qui était Paul, et qui a répertorié des récits tirés de la littérature orale, principalement du Sénégal, et qui expliquait comment les griots improvisaient. Et donc, il expliquait qu'il y avait des sortes de nœuds dans les récits. Par exemple, un point A, ce sera la maison, et le point B, ce sera l'arbre. Et entre le point A et le point B, le griot improvise. Donc, le personnage va de la maison à l'arbre. On sait qu'il va aller à l'arbre, mais tout le chemin, on ne le connaît pas, et le griot improvise. Et il y a comme ça une vingtaine de nœuds qui permettent d'improviser. Donc, c'est un récit qui se fait au présent, qui est improvisé, mais... Pas absolument, il y a déjà un chemin. Ouais, mm-hmm. Ça m'a beaucoup intéressé à un moment.
Mm. On s'arrête quand vous voulez, mais vous donnez d'autres chiffres.
3.
Police, argent.
Police, argent, ça me fait un petit peu penser à certains sujets qu'évoque la narratrice de mon dernier roman, Les Forces, qui se pose des questions sur le monde dans lequel elle vit et la norme. Et donc, la norme, d'abord, ça a été la norme familiale, donc ses parents, son entourage, ses voisins, puis la norme sociale, et ce qui permet à la norme sociale de s'exercer, d'être contenue, d'être gardée. Donc, je pense que ces mots-là résonnent pas mal avec certaines des réflexions de la narratrice de mon roman.
Oui, le maintien de l'ordre public, c'est pas simplement la police répressive, c'est tout un ordre social qu'il y a derrière.
Allez, ben, un dernier, si vous voulez. Hein. Cinq.
Moustique, bug. On sèche.
Voilà, je sèche. Allez, j'ai rien là pour les moustiques. Ouais.
Hein. Allez, encore un autre, puisque vous avez séché sur celui-là. Il faut...
Deux.
Sexe, rire.
Je pense que c'est très proche. Je n'irai pas plus loin.
D'accord, très bien. Bon, alors, on va préparer le numéro où paraîtra votre entretien. C'est un numéro où on consacre un dossier au rire.
Ah.
Et parce que justement, on trouve qu'en ce moment, c'est un sujet qui pourrait être intéressant. On va d'ailleurs interroger les politiques s'ils daignent répondre à cette question. Qu'est-ce qui a déclenché votre dernier éclat de rire ?
J'étais dans la voiture avec Élise Blottière, qui est la personne qui a réalisé le film qui sera projeté durant la performance de ce soir. Et elle a mimé un gangster sur une chanson de rap qui passait sur Skyrock. Mais Élise n'a pas le physique de ce genre de personnage. Donc c'était hilarant, ça m'a beaucoup fait rire.
Et à quel endroit vous le situez, ce rire ? Parce que c'est, en se penchant sur la question, c'est compliqué. C'est compliqué. Je peux vous donner quelques éléments de gens. Par exemple, Italo Calvino, il dit « Le rire capable de mettre en doute tant le moi que le monde avec tout le réseau de relations qui les constituent l'un l'autre. » Baudelaire, il fait une référence au rire satanique. Gogol, si on regarde attentivement et longuement une histoire drôle, elle devient de plus en plus triste.
Ah ouais, ça j'aime bien. Ouais, j'aime bien.
Spinoza, l'idée d'une gaieté absolue issue directement de la positivité de l'être. Vous situeriez où par rapport au rire ?
Oh, j'aime bien la citation de Gogol là sur les blagues. Oui. Dans un de mes romans, La Semaine Perpétuelle, il y a un chapitre dans lequel les personnages sont sur un site. Ils regardent un site de blagues. Et ils se lisent des blagues. Mais ils rient pas du tout. Et ils se lisent comme ça 5-6 blagues et leur visage reste sans expression. Ils sont assis sur des marches dans une ville la nuit. Et voilà. Et le rire n'est pas là. Il n'est pas là. Mais peut-être que comme il n'est pas là, il est là dans son absence. Enfin, son absence le déclenche en quelque sorte. Mais j'aime bien, si je devais parler de rire en littérature, j'évoquerais immédiatement Kafka.
Kafka, oui.
Avec le rire de mouvement, de gestes. Les personnages de Kafka font beaucoup de gestes et sont pleins de mimiques.
Ouais.
Ça, c'est très drôle. Et puis, il y a les gestes des phrases aussi, le geste du récit.
Kundera, elle est pas mal aussi, je trouve. Donc là, on va voir Graines, Lumière, Cuir.
Oui, c'est ça.
Une adaptation performance, vidéo-lecture, avec Élise Blottière à la réalisation.
Oui.
Donc c'est un ensemble de poèmes sur le thème des graines et de la guerre. Là, ça, on a encore deux mots là, qui sont intéressants. qu'on pourrait... donc la poésie, un temps de résistance, reste-t-elle une arme de combat ?
Alors, est-ce que la poésie est une arme de combat dans le système dans lequel on vit ? Je pense que la poésie n'échappe pas à ce système et qu'elle se trouve à l'intérieur. et que sa seule marge de manœuvre, c'est l'élargissement des formes ou l'expérimentation des formes, ou c'est dans les formes en fait, c'est dans la création de formes, dans les phrases même, disons dans les structures grammaticales, syntaxiques, dans l'écriture même, et non pas dans le message, dans le slogan, dans le texte théorique. On a vu comment ça se passe, on a vu de quelle manière ces textes sont récupérés, où les auteurs, les autrices sont récupérés, on devient des images, on circule de manière réduite, écrasée dans notre pensée, dans ce qu'on est, dans ce que les textes représentent. Donc je pense que s'il y a un champ de puissance à la poésie aujourd'hui, il est dans la forme, à partir de la forme, vraiment à partir de quelque chose de très presque très initial de la langue. Et ça, on le voit tout de suite dans un livre.
Merci beaucoup.
Et merci à vous. Merci à vous.
Alter Midi en escapade touche à sa fin. L'arme des journalistes indépendants, c'est la vérité, nous disait il y a peu Daniel Mermet, et il n'a pas tort. Si vous souhaitez vous essayer à l'enquête journalistique avec nous, on vous propose de vous accompagner dans le cadre d'un atelier d'enquête journalistique soutenu par le Conseil département du Gard, qui se tient entre mars et mai 2026. C'est gratuit et cela concerne les habitants du pays viganais. Il reste quelques places. Si cette expérience pratique vous intéresse, écrivez-nous à l'adresse debatcitoyen@altermidi.org. À noter également que les prochains cafés de l'info Altermidi en public se tiendront lundi 9 mars à 18h à la brasserie du Dôme à Montpellier, où nous tenterons de répondre à la question « Médias indépendants et radio locale, comment unir nos forces pour mieux informer ?» en présence de Radio Pays d'Hérault, Radio Divergence, probablement Radio Escapade, et sous réserve l'écho des Garrigues. On se retrouve le mois prochain sur les ondes de Radio Escapade. D'ici là, vous pouvez suivre notre actu quotidienne interrégionale et méditerranéenne en accès libre sur altermidi.org. Pour essayer de comprendre ce qui se passe, on ne sait pas trop d'ailleurs ce qui se passe en ce moment. Histoire de nous rassurer, on peut laisser le dernier mot à Laura Vasquez. On se dirige vers le futur, car c'est là-bas qu'on trouvera la suite.